Je veux dire, ce qui m'a induit cette réflexion, c'est la première fois que j'ai assisté à une messe de minuit à Jérusalem, rassurez-vous, devant mon poste de télévision, puisque la messe de minuit à Bethléem est reproduite, enfin, comment dire, rediffusée par la télévision israélienne. Alors j'ai vu le corps diplomatique, et en tête il y avait l'ambassadeur de France, qui avait sur ses bras un bébé en celluloïde, mais qui s'approchait de l'autel, mais avec une ferveur et avec une... J'ai réfléchi, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on adore le Fils comme tel? Et à la suite de réflexions, je suis arrivé à cette lecture. Une fois que le frère est supprimé, on peut être sauvé, on peut être sauvé par l'amour du Fils. Alors, vous voyez comment ça bascule. Je reviens au sujet. Et en fait, dans la lecture hébraïque de la Bible, et il y a cette recherche qui est capable d'être frère, qui est capable d'aller vers ses frères. Vous noterez quelque chose de très frappant, l'histoire de Joseph. Et l'histoire de Joseph, parce que Joseph est déjà celui qui cherche ses frères. Vous vous rappelez? Si vous voulez, je peux vous donner la référence. Lorsque Jacob l'envoie à Shrem pour rejoindre ses frères, que l'ange le rencontre en chemin, il lui demande « Qu'est-ce que tu cherches ?» Il dit « Etahai anochi mevakesh ». C'est mes frères que je recherche. Et c'est très frappant de voir que Joseph est l'homme de la fraternité et Moïse est l'homme de la fraternité. Ce mot est pris dans le sens le plus total de sa signification. Et c'est très important de voir que Moïse ne va mettre fin à cette tentative d'une civilisation de la fraternité. Le véhicule de civilisation étant l'Égypte des pharaons, c'est l'identité hébraïque qui traverse la civilisation du temps pour essayer de lui transmettre les valeurs des patriarches hébreux. Et je pense que si on cherche une définition quelconque du projet, de l'aventure diaspora, en bonne part, il ne peut s'agir que de cela. C'est une partie d'Israël, ou Israël en tant que Joseph, qui tente de se mettre au service de la civilisation du temps, disons pour l'hébraïser, pour la fraterniser dans ce sujet, pour la transfigurer. Vous savez quel est mon sentiment à ce sujet, c'est que le récit biblique, le témoignage de la Bible, c'est que c'est toujours un échec, ça aboutit toujours à un échec. Mais c'est pourquoi la sortie d'Égypte commence l'histoire des Hébreux en tant que société. Quand l'Égypte a échoué, l'histoire d'Israël commence. Et justement, ce qui fait basculer, c'est l'initiative de Moïse. Mais c'est très frappant de voir cela, que Moïse ne pourra quitter l'Égypte que s'il emporte avec lui les ossements de Joseph. Beaucoup d'enseignements nous sont donnés à ce sujet, et j'en mettrai en évidence un qui me semble important, c'est que si Moïse quitte l'Égypte sans emporter avec lui les ossements de Joseph, tout ce que ça représente, il disqualifie la tentative de Joseph. Tandis que s'il emporte avec lui les ossements de Joseph, il la légitimise a posteriori au moment même de son échec. C'est-à-dire que c'était une tentative qui était à tenter, elle a échoué. On a cherché à faire que l'être frère soit l'homme de la civilisation égyptienne. On a échoué. Ça, c'est la tentative Joseph. C'est la tentative Joseph. Et d'une certaine manière, on pourrait formuler cela de manière très simple. Si les Juifs ont quelque chose à dire en diaspora, c'est quoi? C'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et la manière de s'en servir. Et au fond, c'est ça que Joseph a essayé de faire en Égypte. Et chaque fois, c'est un échec. Je referme cette parenthèse, mais je crois que c'est très clair, c'est l'ordre du récit biblique. Alors Moïse emporte avec lui les ossements de Joseph, et c'est la dernière geste des péripéties de l'histoire de Moïse à la sortie d'Égypte. Sinon, il ne peut pas sortir d'Égypte et faire sortir Israël. Et alors, je rattache à cela un autre commentaire qui est extrêmement important, parce que si on laisse les traces de Joseph en Égypte, ils vont être idolâtrés. On va faire de Moïse l'idole de l'Égypte, de Joseph. Vous voyez, c'est vos cassettes qui me gênent. J'ai pensé au sarcophage des momies. Et c'est la parole momifiée, ça. Et alors, la hantise de Jacob qui demande qu'on l'enterre pas en Égypte, la hantise de Joseph qui rappelle à ses frères l'exhortation de Jacob il voulait faire comme Jacob, ne me laissez pas entrer en Égypte, c'est qu'on risque de faire un cénotaphe, je ne sais pas comment on dit cela, le tombeau de Léline, vous voyez, le tombeau de Staline, c'est-à-dire à l'adoration des, des peuples libérés. Je télescope le vocabulaire, mais c'est exactement ça. Les civilisations ont adoré les traces d'Israël après l'histoire d'un échec. Et c'est donc important de voir comment la personnalité de Moïse se rattache en ce sens à la personnalité de Joseph. Nous sommes en un temps d'ailleurs où peut-être nous sommes en un temps de type Moïse, où peut-être il faut emporter les ossements de Joseph. Quoi qu'il en soit, revenons au sujet et à notre verset. Voyez ce qui se passe. Il sortit vers ses frères. Nous sommes au début de cette option et de ce choix. Encore une fois, ses frères, ça peut être les Égyptiens, ça peut être les Hébreux. Je pense que c'est suffisamment clair. Okay. Et puis voilà ce qui se passe. Ils considèrent leurs tâches dans le sens de peine, et il y a les tâches des Égyptiens et les tâches des Hébreux. Il fait partie d'une certaine manière des deux solidarités. Il est solidaire des maîtres qui doivent faire réussir l'histoire. Il est solidaire des esclaves qui doivent être les ouvriers de cette histoire. Et puis, il considère les deux projets de civilisation qui collaborent tous les deux à faire que la civilisation de l'Égypte soit peut-être la civilisation messianique. Elle a échoué. Et alors, voilà ce qu'il voit. Vayar Ish Mitzri, il voit un homme hébreu, Maké Ish Ivri. C'est-à-dire un homme égyptien, Ken. Il voit un homme égyptien, Maké, qui frappe, c'est au présent, en train de frapper Ish Ivri Me'echav, de ses frères. C'est donc le de ses frères de la fin du verset qui dévoile l'orientation de son option. Alors, bien entendu, il est tout puissant en Égypte. Il ne s'agit pas ici simplement d'un homme égyptien, d'un individu égyptien qui frappe un individu hébreu. Il est tout puissant en Égypte. Le Midrash restitue le fait qu'il était le chef des travaux forcés des Hébreux dans les camps de concentration de l'Égypte. Je ne sais pas comment dire en langage concentrationnaire, le capot en chef des camps de l'Égypte. C'est inouï. Il y a un midrash qui indique que les insignes de sa fonction, c'était un joug, un collard, un joug, le joug qu'on mettait aux esclaves en or à son cou. C'était pour indiquer sa fonction en Égypte. Il y en avait un deuxième sur le cou du pharaon. Par conséquent, ce n'est pas une anecdote individuelle que la Torah nous raconte ici. Le fait qu'un Égyptien a frappé un Hébreu, ça s'est passé tous les jours. Et ça s'est passé à chaque moment de chaque jour. Mais ce qu'il voit est beaucoup plus profond. Il voit que l'Égyptien est le persécuteur et l'Hébreu le persécuté. Ce n'est pas la différence des civilisations ou des cultures qui le frappe. Il est à l'aise dans les deux. Il rêve peut-être d'une symbiose des deux. De ces symbioses qui, chaque fois qu'elles réussissent, sont le signe des catastrophes pour l'histoire d'Israël. Je vous ici une parenthèse. Je crois que là aussi, il faut s'alerter. Chaque fois que la symbiose, judéo, les nations, a réussi, c'est le signe que c'est le temps de décrocher. Et si on ne décroche pas suffisamment à temps, arrive la catastrophe. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Et c'est Moïse qui diagnostique que le temps est venu de décrocher. Je vais vous donner quelques flashs de rappel historique. Notre histoire est très longue. Mais l'Égypte, les Hébreux, était excellemment à l'aise, Metsuyanim Sham, dit le texte, en Égypte. Et vous savez, il ne faut pas croire que la civilisation des Égyptiennes, toute proportion de critères de civilisation gardés, était une civilisation primitive, c'était une grande civilisation de l'Antiquité. Et il y en a eu d'autres que les Hébreux ont traversées. Je vous ai une fois peut-être raconté, je ne sais pas si c'est à vous, comment j'ai perçu cela, les premières émissions de La Source de Vie avec le rabbin Eisenberg. Je ne sais pas, est-ce qu'on l'appelle encore rabbin ou pas, je ne sais pas. Non, peu importe. En tout cas, il s'appelle Josie, ça je me rappelle. Eh bien, j'avais collaboré tout au début à une émission sur Pessah, sur Pâques. Et la télévision avait demandé qu'on enregistre l'émission dans les salles du Louvre de la statuaire égyptienne. Alors, moi, comme vous savez, juif pieux, je ne rentre pas là où il y a des statues. J'ai demandé la permission à mon rabbin, il me l'a donné, il m'a dit c'est pour une mitzvah, vas-y, mais ferme les yeux quand tu traverses les salles grecques. Bon, c'est ce que j'ai fait. Alors, J'ai d'ailleurs traversé les salles grecques sans fermer les yeux. Et j'étais impressionné par cette beauté. Mais quand je suis arrivé dans les salles égyptiennes, j'étais surimpressionné par la force de cette statuaire. Vous savez, les statues grecques, c'est des statues mortes, les yeux morts. C'est beau, mais c'est tellement beau que c'est mort. Je ne sais pas comment dire ça. Tandis qu'à côté de ça, la statuaire grecque, égyptienne, c'est la vie prise dans la pierre. Enfin, imaginez les Hébreux, il leur fallait du mérite pour rester Hébreux en Égypte de ce temps-là, avec une telle civilisation. Il ne faut pas mépriser l'effort de résistance à l'assimilation en ce temps-là, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ça. Oui, il y avait une symbiose judéo-égyptienne colossale. Si une civilisation où il arrive cela, qu'une fois, Joseph, mais deux fois Moïse, à la place où ils étaient, c'est l'indice que la symbiose hébréo-égyptienne était possible et réussie. Est-ce que c'est clair ? Bon, alors ça, il faut le comprendre à travers toutes les civilisations que nous avons traversées. J'ai en mémoire deux exemples qui me touchent personnellement, parce que, comme vous savez, je suis un sfaradi qui s'appelle Ashkenazi. C'est d'abord l'Inquisition d'Espagne. La symbiose judéo-espagnole a été une grande réussite. Ceux qui suivent un peu cette civilisation judéo-espagnole savent à quel point, d'ailleurs, les sefaradim aristocrates espagnols de notre temps sont encore d'une fidélité qui démontre ce que ça représentait pour eux. Et ça a été une grande réussite. Or, ce qui est arrivé, c'est comme ce qui est arrivé en Égypte. Les Hébreux sont pris pour des Égyptiens, catastrophe. Les Juifs sont pris pour des Espagnols, catastrophe. Et puis d'autre part, au siècle dernier, la symbiose judéo-allemande a été aussi une très grande réussite au point de vue culturel. Et puis les Juifs sont pris pour des Allemands et la catastrophe est arrivée. Alors, je n'ai pas dit que ça, c'est en train de réussir en France. J'en sais rien, vous le savez mieux que moi. Mais je crois que c'est en train de réussir en Amérique et qu'il y a déjà des signes avant-coureurs un peu désagréables que ça ne fait pas plaisir aux Noirs d'Amérique. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y en a un thème qu'il faut revoir, qu'il faut reprendre. C'est un thème qui est accroché à la personnalité de Moïse. Moïse est le témoin de la réussite de cette symbiose culturelle de deux civilisations, l'hébreu en diaspora en Égypte, et la civilisation égyptienne, qui est la civilisation dominante de ce temps, et d'autre part, il est le témoin de l'échec moral de ce lien. C'est lorsqu'il perçoit qu'il y a immoralité dans la manière dont l'Égypte se relie à Israël qu'il choisit pour Israël. Je voudrais vous donner l'exemple contemporain. Je ne sais pas si j'arriverai à le formuler de manière suffisamment claire. Énormément de juifs contemporains de la Shoah, qui étaient complètement assimilés, qui se considéraient comme des Européens à part entière, bien que les Européens les considéraient comme des Juifs entièrement à part, mais ça c'était le problème habituel de notre sociopolitique. Mais ils ont réagi en rejoignant leur communauté, Israël parfois, l'Israël israélien, mais en rejoignant le peuple juif par réaction, par sursaut de conscience morale sur ce qui se passait. Et pas tellement qu'ils étaient persuadés que la civilisation juive était supérieure à la civilisation européenne, mais ce qui les a empoignés, c'est cette disparité de niveau moral entre une civilisation capable de devenir de donner ce qu'est devenu le nazisme et d'autre part leur identité de filiation hébraïque et juive. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Et je crois qu'un phénomène du type les nouveaux philosophes, List, Sarajevo d'abord, ce genre de regroupement est assez symptomatique aussi à ce sujet. Il s'agit grosso modo d'hommes déçus de la civilisation soviétique. Mais quoi qu'il en soit, on voit que beaucoup de ces nouveaux philosophes ont été déçus de la civilisation marxiste, disons, soviétique, non pas tellement pour des questions de contenu de civilisation. S'ils ont rejoint leur identité juive à leur manière, ils n'ont pas rejoint la communauté, ils n'ont pas rejoint Israël. C'est surtout pour des critères de réaction d'ordre philosophico-moral et non pas du tout de civilisation. En général, sauf quelques petites exceptions, ils sont complètement ignorants dans tout ce qui concerne la culture juive. Mais alors, une ignorance extraordinaire. Une ignorance étonnante pour des intellectuels. Il y a quand même un minimum de respect de soi. Et j'en connais un, je ne dirai pas son nom, mais une fois j'ai participé à un symposium avec lui, c'était à Rachi, il était assis à côté de moi, tu t'en souviens. Alors ici, tu es dans une langue française extraordinaire, un Jérémie imaginaire. À la deuxième citation, j'ai commencé à m'inquiéter. À la troisième, j'ai fait passer un petit bout de papier. Est-ce que vous pouvez donner la référence? À la quatrième, je dis, est-ce qu'on ouvre la Bible? Il n'y a pas eu de cinquième citation. Et vous voyez, mais une ignorance dans le fond, dans la forme et dans le contenu, je ne sais pas comment dire ça, et avec toujours comme introduction, comme dit la Bible, comme dit Jérémie, comme dit la tradition, comme dit le judaïsme, chouklou. Mais je suis persuadé qu'il a là un comportement du même type que Moïse, préférant les Hébreux aux Égyptiens, mais encore une fois pour des raisons d'ordre sociopolitique, de signification morale, beaucoup plus que pour des raisons d'ordre de civilisation, de culture, de spiritualité. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors voilà, il me semble qu'il y a un flash sur Moïse qui est extrêmement important. Je relis le verset et on passera à une autre citation. Voilà, « Vayhi bayamimahem » et il arriva en ces jours-là. « Vayidal Moshe » et Moïse grandit. « Vayetse lechav » il sortit vers ses frères. « Vayar besivlotam » il vit leur fardeau. « Vayarish mitzri make ish ivri mecha » et il vit un homme égyptien frappant un homme hébreu de ses frères. Alors, il me semble que le sens qui apparaît est important. Il a vu l'homme égyptien frapper l'homme hébreu. Il a opté pour l'homme hébreu contre l'homme égyptien. Ça est clair. Je passerai rapidement parce que maintenant c'est suffisamment analysé sur la suite. La suite nous dit, vous n'avez pas le texte là, mais vous le reverrez dans vos livres. Verset 12. Vaifen kovako, vayar kienish. Il se tourna ça et là. C'est comme ça qu'on dit, d'un côté et de l'autre. Oui, vous l'avez. Bon, continue. Vayar qui est niche, il vit qu'il n'y avait personne. Vayar est à Mitzri, il frappe à l'Égyptien. Vayt menehu bachol, il l'enfouit dans le sable. C'est un peu ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure. Alors on se demande, mais de quoi il a peur? Il est tout puissant en Égypte. De quoi a-t-il peur? Je vous ouvre une parenthèse tout à l'heure du Midrash Rabba sur la mort de Moïse. On reviendra à cette scène là. En fait, ce qui lui fait peur, c'est pas du tout d'une vengeance éventuelle du pharaon parce qu'il aurait tué un Égyptien. Le pharaon était au-delà de ses scrupules. Mais de ce fait, est-ce que la mission d'Israël en Égypte a encore un sens et alors il ne faut pas accélérer les événements? Et quelle est cette mission? Et est-ce que le pharaon... Qui va prendre conscience de ce que moi, Moïse, j'ai opté pour Israël contre sa civilisation, ne va pas déclencher des représailles. Mais ce n'est pas encore une fois une espèce de punition de la gendarmerie locale qu'on a attrapé Moïse à enfouir un Égyptien. Vous avez compris la question. Bon. Alors le commentaire nous dit, suivez bien. Il scruta ça et là toutes les lignées de l'Égypte et il vit qu'il n'y avait aucun Égyptien destiné à se convertir. Alors il s'est dit, on n'a plus rien à faire ici. Et qu'est-ce que veut dire ce commentaire? Vous avez entendu le commentaire, il a scruté toutes les généalogies des identités égyptiennes et il vit qu'aucune d'entre elles n'était destinée à se convertir. À quoi? Israël n'existe pas encore, ni avec ses tribunaux, ni avec ces tribunaux rabbiniques Bedin A, Bedin B, Bedin C, et avec les législations différentes de conversion. Et convertir à quoi? En allant dans le fond des choses, ça veut dire que c'est irréversible. Cette civilisation est plus qu'à son déclin. Elle est arrivée à saturation d'échecs. Il n'y a plus aucun Égyptien qui puisse redevenir un homme. Et si la mission d'Israël était d'être en Égypte pour faire que l'Égypte devienne une civilisation humaine, pas dans le sens humaniste, mais dans le sens humain, eh bien, nous n'aurons plus rien à faire ici. Il faut déclencher le décrochement. Il faut décrocher. C'est bien clair. Hein? Et voilà, donc ici le commentaire va à l'essentiel. Tant qu'il y avait encore espoir qu'un Égyptien redevienne un homme, et à l'occasion, pourquoi pas, s'intègre au peuple des Hébreux, c'est une autre dimension du problème. Alors, c'est le Talmud qui dit. Alors, je vais vous citer le Talmud, c'est dans la Maseret Yoma, la Maseret qui traite du jour de Kippour. Je n'ai pas la référence en tête, mais ça peut se trouver. Maintenant, vous avez des concordances qui vous trouvent n'importe quoi, n'importe où. Qui dit ceci, les Israël ne vont en exil que pour ramener des convertis. Alors, il y a ici ce qu'on appelle dans la dialectique talmudique un lav dafka. Pas que pour ça. Mais nous avons différentes autres formules pour chaque projet qu'il y a à expliquer. Israël ne va en exil que pour. Chaque fois, ce n'est pas que pour ça. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, c'est, si déjà la fonction de l'exil existe, alors il y a aussi cette... Il y a ici un thème très important, surtout, est-ce qu'on peut ouvrir un peu là, faire un petit courant d'air, parce que... Stira? Nahon, oui, exact. Et c'est ceci, c'est que au moment de la constitution d'Israël, dont la vocation sera le peuple de prêtres pour l'humanité, sous la conduite de Moïse, ça va être différé à la fin des temps, à cause des événements postérieurs de cette génération de la sortie d'Égypte, mais c'est le projet initial. Eh bien, à ce moment de la constitution de l'identité d'Israël, une partie des âmes de sainteté qui devaient être rassemblées par Abraham, Isaac et Jacob sont restées en dehors. Et donc, une des fonctions de l'exil, c'est d'aller là où elles se trouvent pour qu'elles retrouvent leur foyer. Est-ce que c'est bien clair? C'est une thèse que vous connaissez sûrement déjà. Une thèse qui est très difficile à comprendre. Parce que le prix à payer pour cela est incommensurable avec le bénéfice éventuel. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Ça veut dire que, corollairement, le péril que ça représente, cette traversée des civilisations pour ramener quelques étincelles de sainteté mises à l'abri à Jérusalem, ou à Tel Aviv d'ailleurs, il y a aussi des convertis à Tel Aviv. Eh bien, c'est difficile à comprendre. Mais enfin, c'est un thème qui a sa valeur propre. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est un lavdavka. C'est pas que pour ça. Parce que si c'était que pour ça, on se demanderait quel sens machiavélique aurait notre histoire. Et en réalité, là, j'ouvrirai une parenthèse pour vous montrer le sérieux de cet enseignement. Lorsque Abraham intervient dans la guerre entre les rois pour sauver son neveu Lot qui était en danger parce qu'il a été fait prisonnier dans cette guerre. Or, Lot qui s'est séparé d'Abraham parce que Lot n'arrive pas à être le berger dans l'ordre de la pureté. Il est le berger, mais dans l'ordre de l'immoralité. Il préfère être aumônier israélite de la cour de Sodome et Gomorre. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que ça représente. Okay. Et alors, c'est suspect. Okay. Qu'est-ce qu'il cherche à Sodome et Gomorre? Sauver les sodomites ou les gomoréens, je sais pas. Ou bien c'est qu'il aime ça. Okay. C'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, Abraham le protège parce que Lot porte en lui une part de sainteté. Lot est originaire de la famille d'Abraham, il s'en était écarté. Il porte en lui une part de sainteté qui va revenir avec Ruth. Beaucoup plus tard, à la suite de beaucoup d'histoires et de péripéties, Ruth ramènera cette part de sainteté qui était perdue avec Lot. Et donc Abraham protège Lot, quoi qu'il en soit. Et là, il va permettre au roi de Sodome de gagner la guerre. Et alors le roi de Sodome lui propose sa part du butin, et il y a une formule là où Abraham refuse tout, en disant « garde et le butin et les prisonniers ». Et le terme qui désigne ce butin qui n'a pas été pris par Abraham, c'est le terme de « rechouch ».« Teni et en effet, je vais rechouch kachlar ». Le roi de Sodome dit à Abraham « donne-moi les personnes et garde le butin et rechouch ». Et Abraham dit, même le butin, j'en veux pas. Et les personnes, il fait même pas allusion. Alors, il y a des personnes et des valeurs qui sont tombées dans la civilisation de l'extérieur. Et il faudra que la descendance d'Abraham aille les reprendre là où elles sont tombées. Et alors, je vais vous montrer par l'ordre des versets, vous me direz suffisamment clair. Lorsque Dieu dévoile à Abraham l'éventualité de l'exil pour sa descendance, il lui dit, savoir, tu sauras que ta descendance sera opprimé, persécuté pendant 400 ans dans un pays qui n'est pas le leur, et ils seront opprimés, persécutés, mais même la nation qui les persécutera, je les jugerai, les Égyptiens, il s'avère que ce sera en Égypte, et ensuite ils sortiront avec un grand butin. Et c'est la deuxième fois dans l'ordre du récit que ce mot de butin est indiqué. Ça veut dire qu'il faudra descendre en exil là où le rechouche qu'Abraham avait laissé dehors est tombé. Est-ce que c'est clair, l'explication? Donc, je pourrais vous donner une autre indication que je n'expliquerai pas, simplement en passant pour vous montrer toute une ligne de lecture de ce problème. Un des grands personnages qui a mis fin à un des exils d'Israël, c'était Koresh, Cyrus. Alors, Koresh, c'est les mêmes lettres que Rechouche. Il y a un moment messianique à l'apparition de Cyrus, qui est appelé par les prophètes, surtout par Isaïe, Messie d'Israël, parce qu'il met fin à l'exil de Perse. Et on est parti de Perse avec les valeurs reprises, qui étaient perdues en Perse et reprises de là-bas, de la même manière qu'on est sorti d'Égypte avec les valeurs. Bon, c'est clair pour notre commentaire. Moïse se rend compte qu'il n'y a aucune valeur à sauver en Égypte, c'est donc le temps de décrocher. Je referme cette parenthèse. Oui, de quelle nature est l'engagement politique de Moïse? D'abord, un diagnostic de moralité dans la société. Il reconnaît qu'il faut chercher ses frères, mais ses frères sont chez les Hébreux, pas chez les Égyptiens. J'espère avoir suffisamment suggéré que ces péripéties-là, nous les vivons dans notre histoire. Et puis, d'autre part, le bilan qu'il fait qu'il faut mettre fin à l'aventure qui avait commencé avec Joseph. Et alors, je ne lis pas la suite, elle est importante aussi à lire, mais c'est d'abord pour éclairer cela. Et voilà Moïse, qui se trouve en charge de l'histoire d'une société auquel il doit donner les véhicules et les moyens de l'organisation qui permettra à cette société, il s'agit d'Israël sortant d'Égypte, d'être le véhicule des idéaux des patriarches. C'est-à-dire, Moïse est en charge d'une société humaine qui doit être en tant que société, et c'est un fait politique, sociopolitique, le véhicule des valeurs propres aux patriarches. Je vous le dis en termes traditionnels, il y a des midot, des valeurs des patriarches, la mida d'Abraham, la vertu d'Abraham, la vertu d'Isaac, la vertu de Jacob, qui sont le préalable indispensable à la législation pour Israël, à la Torah en tant que législation pour Israël, et Moïse a pour charge de créer une société à partir d'une diaspora. Et j'explique, la diaspora, c'était l'atomisation à l'échelle individuelle des membres de ces familles issues d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le résultat de tout exil, d'atomiser, d'individualiser, de faire disparaître l'entité collective que représente la collectivité d'Israël. Elle devient, on y reste fidèle dans l'exil, mais elle devient un être mystique. On se réfère à la collectivité d'Israël comme on se réfère à un idéal non incarné. Et on fait partie de communautés qui sont des rassemblements d'individus. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'à la sortie d'Égypte, il fallait refaire l'entité nationale. Et le geste des premières mitzvot de Pessah, de Pâques, c'était de refaire les familles et de réaffilier les familles à leurs tribus, de telle sorte de refaire la sociologie des Hébreux qui avait été atomisée par l'univers concentrationnaire de l'Égypte. Est-ce que c'est suffisamment clair? Voilà donc la tâche de Moïse. Vous reverrez en détail les premières mitzvot que la Torah donne pour Pessah, pour la sortie d'Égypte. La signification même du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah, ce qu'on appelle en français l'agneau pascal, c'est chargé de tellement de consonances étrangères que je ne l'emploie pas tout en l'ayant employé, eh bien c'était de refaire les chavot, les entités familiales. Et je crois que nous sommes encore, en tout cas ceux de ma génération, ont encore dans la mémoire cette nécessité de refaire la collectivité d'Israël après cette destruction de l'entité collective. Et dans le résultat du temps concentrationnaire a été l'atomisation des individus. Alors, vous voyez, l'importance de Pâques, dans ce sens-là, c'est de refaire la société d'Israël en tant que nation. Et jusque-là, pas aucune révélation à Moïse. Jusque-là, Moïse est un homme hébreu d'une initiative politique de très grande importance qui fait basculer l'histoire universelle, mais on ne le sait pas encore. Voilà donc la surprise à laquelle nous allons être confrontés, c'est que semble-t-il, ce Moïse, malgré son expérience de vice-roi de l'Égypte, enfin je dirais même de pharaon en chef de l'Égypte, puisqu'il était destiné à remplacer le pharaon, il en était l'exécuteur. semble complètement désorienté dès qu'il s'agit de donner à ce peuple sortant de cet exil une organisation. Ne cherchons pas dans ce qui va suivre toute analogie quelconque, une analogie quelconque avec les difficultés de la société israélienne. L'événement est analogue. Après un long temps d'exil, refaire une société organisée, ce n'est pas simple. C'est pas du tout mon intention de faire une correspondance, mais il y a certainement des passerelles à établir. Les difficultés auxquelles la société israélienne se heurte, dans le principe, sont les difficultés auxquelles Moïse va se heurter. Comment refaire le rassemblement des exilés, je parle du temps contemporain, de 120 exils différents et de 100 langues différentes, comment refaire une nation cohérente aux prises avec les problèmes que vous savez, de tous ordres et de toute envergure. Mais pour Moïse, la situation est schématiquement énorme. Comment faire d'un peuple de rassemblement d'exilés individualisés une société cohérente? Et on voit qu'apparemment, il ne sait pas s'y prendre. Ça, c'est le paradoxe auquel je voulais arriver. Nous avons donc le chapitre 18 de l'Exode, la paracha de Yitro. Alors, je ne sais pas si on vous a mis ça dans vos références, mais je vais vous lire très rapidement de quoi il s'agit. Je lis le texte à partir du verset 13. « Vayhi mimachorat » et il arriva à partir du lendemain. « Vayeshev Moshe ishpot et ha'am » Ce lendemain, c'est le lendemain de la proclamation de la Torah. Et donc la Torah, c'est la législation proposée. Vous avez ce texte ? Non, ça fait rien. Suivez-moi oralement. Suivez-moi oralement, c'est pas la peine de perdre du temps. La Torah, c'est la législation proposée à cette société qui va entrer dans son histoire 40 ans après, par la suite. Il y a ici un point important que je mets en évidence. L'histoire d'Israël est un cas particulier de l'histoire des sociétés humaines. La constitution, sa constitution idéale, lui est donnée avant que son histoire ne commence. Dans toute autre société, il y a tout un long temps de péripéties, de constitution des institutions, d'établissement d'une tradition, d'établissement de mœurs, d'où procède finalement une constitution. Prenez l'histoire de France, c'est un modèle très éclairant. Tandis que là, nous avons un cas particulier, la législation idéale est révélée a priori que l'histoire va commencer plus tard. Est-ce que c'est bien clair? D'ailleurs, c'est une des raisons qui nous explique et nous rend vraisemblables ce passage au désert de 40 ans où ce peuple devait s'initier à sa constitution avant de commencer son histoire. Et c'est pourquoi le problème économique et de sécurité des sociétés classiques lui est supprimé. C'est ce que nous sommes en train de lire d'ailleurs dans les parachutes des semaines où nous sommes. C'est les 40 ans où ce peuple n'avait pas de problème économique. Il y avait la manne qui remplaçait exactement la recherche de la nourriture. Et le puits de Myriam qui donnait de l'eau. Et les nuages de la gloire, je vous cite des sujets qu'il faut étudier d'autre part, qui étaient protection du camp, et donc on n'avait pas besoin d'armée. Et pas de problème économique, pas de problème de sécurité. On était disponible pour s'initier au fonctionnement de la société dont l'histoire va commencer sous la direction de Josué, au bout des 40 ans au désert, c'est un cas particulier. Tout se passe comme si... Dans notre histoire, tout est à l'envers de l'histoire des nations, à l'inverse de l'histoire des nations. Dans l'histoire des nations, la législation arrive au bout de l'histoire. Pour nous, elle nous est donnée a priori. Pendant 2000 ans, nous sommes préparés à avoir un État. Et puis, c'est au bout de 2000 ans seulement qu'on s'aperçoit qu'on ne sait pas comment le faire fonctionner. Alors, de quoi on s'occupait pendant 2000 ans? Je referme la parenthèse. J'exagère, mais pas tellement. Et quoi qu'il en soit, toutes choses égales, nous allons être très étonnés. La législation a été donnée et dès le lendemain, Moïse s'instaure comme juge du peuple. Dès que la société fonctionne, le premier problème urgent à résoudre, c'est la jurisprudence. C'est l'ordre des tribunaux, la contestation des citoyens égaux, tous justes, tous pensants être en conformité avec la loi, et cependant il y a différent, il faut que le juge intervienne pour que la société fonctionne. C'est clair. Alors, Vayaramod Aram al-Moshe, le peuple se tenait sur Moïse, devant Moïse, du matin jusqu'au soir. Et le beau-père de Moïse, verset 14, vit tout ce que Moïse faisait pour le peuple. Et vous voyez, Moïse s'instaure comme juge unique, pas comme juge suprême. Voilà la conception politique de Moïse. Ce peuple est un peuple de prêtres, ce peuple est un peuple d'élite. Ça, c'est une prophétie de De Gaulle. Un jour, il s'est demandé, qu'est-ce que sera le juif? Il a répondu, il sera élite. Dominateur et le reste. Mais je reviens au sujet. Et tout se passe comme si ce peuple est un peuple exceptionnel, qui est voué à une vocation exceptionnelle. L'idée qu'il ait besoin d'un corps juridique, de la justice dans le sens habituel de toute société, semble ne pas effleurer Moïse. Il s'instaure lui seul comme interprète de la loi pour les cas de contestation dans le peuple. Vous voyez, c'est un moment que je voulais mettre en évidence, un paradoxe. Comment cet homme, qui a été à la tête de l'Empire égyptien, se comporte avec cette société qui est vouée à la vocation que lui va lui assigner. On continue. Et donc, Jéthro, son beau-père, qui a été un de ses maîtres pendant les 40 ans où il était à Midian, il lui avait enseigné la sagesse antique, et va intervenir. Il vit tout ce que lui faisait pour le peuple. Vayomere, il dit. De cette chose que tu fais au peuple, Madouar, quelle est cette chose que tu fais au peuple, Madouar, pourquoi, tu es assis seul, assis comme juge seul, et tout le peuple par rapport à toi. Il y a là déjà l'amorce d'une critique, d'une tentation politique que je veux essayer de décrire en bonne part. À une échelle intellectuellement idéalisée. S'il s'agit d'un peuple d'élite, il suffit de Moïse pour éclairer ce peuple d'élite. L'idée qu'il va falloir une hiérarchie à tous les niveaux, il va falloir recommencer à partir du commencement, de faire de ce peuple doué à une vocation exceptionnelle, comme si ce peuple était un peuple analogue aux autres, semble ne pas effleurer Moïse. Il va falloir que Jéthro intervienne pour lui donner ce qui apparemment est un conseil, mais qui est un très grand paradoxe. Comment Moïse a besoin d'un conseil pareil? Est-ce que je lis la suite ou le sujet est suffisamment posé? Alors quel est le problème? Jéthro va lui dire, il te faut des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, et le système de patrouille. Si vous avez été éclaireur, ou si vous avez été dans un mouvement de jeunesse, c'est Moïse avait besoin d'un Baden-Powell, pour lui apprendre comment on organise une société en préparation, en formation. Alors là, ce qui apparaît, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, s'il s'agit d'Israël, Moïse ne pense en aucun cas à ce qu'Israël ait besoin, lui, d'une hiérarchie, qu'elle soit spirituelle ou politique. D'emblée, nous apercevons que l'idéal politique pour Moïse, et j'essaierai d'expliquer jusqu'à ce que ça devienne vraisemblable, c'est l'anarchie absolue, dans le sens étymologique et positif du terme. Anarchia, aucune hiérarchie. C'est ce principe, ce sera le troisième texte, nous allons voir assez rapidement, que l'antagoniste de Moïse, Coré, Korah en hébreu, c'est ce principe sur lequel il va s'appuyer dans sa querelle contre Moïse. Étant donné qu'il y a dans le principe une égalité absolue de dignité de tous les citoyens éventuels de cette société, l'idée d'une hiérarchie politique quelconque est un blasphème. Vous voyez, Moïse semble fonctionner à travers ce principe. Et cette génération d'Israël a besoin d'un juge, et bien il y a Moïse pour juger. Il va se heurter au fait que l'idéal est tombé au niveau de la réalité. Qu'en réalité, il y a un apprentissage de la société libre qui doit se faire. Et pendant tout le temps de cet apprentissage, avant d'être sage, on est apprentissage, si j'ose dire, et pendant tout le temps de cet apprentissage, il faut une hiérarchie qui, dans le principe idéal, est provisoire, mais qui, dans la réalité, est nécessaire. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, on apprend deux choses ici. Je peux aller assez rapidement. D'une part, que Moïse, dans le principe, considère que si Israël est Israël, il ne doit pas y avoir de hiérarchie, ni à l'échelle spirituelle, religieuse, ni à l'échelle politique. C'est comme ça qu'Israël doit être, un peuple d'élite, tous au même niveau, et avec comme guide, le guide qui a été le révélateur de la législation révélée, la Torah du Sinaï, mais dans la réalité, et il faudra qu'ils s'habituent à cela, il faut découvrir que ces membres d'Israël sont au début d'une histoire où il faudra récupérer le niveau idéal qui leur a été révélé. J'essaie de montrer cela, c'est le premier point. Le deuxième point étant le fait que lorsque la querelle politique de Corée contre lui va s'appuyer dans une argumentation de démagogie, de mauvaise foi, sur le principe que Moïse avait établi. Étant donné que tout le monde est égaux, qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas à avoir une hiérarchie où Moïse serait le roi et Aaron le grand prêtre. Et en plus, il y aurait népotisme, puisque c'est d'une famille particulière que est installé les trônes du pouvoir. Vous voyez quel est le problème? Alors je crois que là, nous avançons dans notre analyse de manière assez aisée, assez simple. Je vais essayer, sous forme d'image, mais c'est plus qu'une image, d'expliquer ça d'après la scène du Sinaï. Au Sinaï, tout le peuple était au sommet de l'identité humaine. Et puis, la révélation se fait, et il y a énormément de textes qui montrent cela. L'identité de chacun des Hébreux était celle du sommet de la capacité prophétique. Et puis, au point que nous dit un Midrash, que leur âme quitte leur corps. Ils deviennent angéliques. Il a fallu que Dieu envoie des cohortes d'anges pour rattacher les âmes des Hébreux dans le corps des Hébreux, parce qu'ils sont à un sommet de vision de l'identité humaine telle qu'ils sont au-delà de l'histoire. Si j'ose dire, dans un autre sens, pour eux, l'histoire est arrêtée. Ils sont arrivés au bout de l'histoire. Et puis, il faudra faire effort pour redescendre au bas de la montagne et commence une très longue histoire qui va jusqu'au temps messianique, où on regravira la pente de la montagne pour arriver à ce niveau où on était au Sinaï, au moment de la révélation du Sinaï. C'est pourquoi Moïse ne rentrera pas en terre de Canaan. Ce n'est pas Moïse qui peut être le chef politique du peuple dans son histoire. Moïse est le chef politique du peuple dans la constitution de la nation à la sortie d'Égypte. Il sera le chef politique du peuple à la fin des temps. Est-ce que l'image est suffisamment claire? Là, il y a un mystère apparent qui se trouve un peu éclairé. Pourquoi Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël? Pour l'histoire qui commence en Eretz Israël, c'est pas d'un Moïse dont nous avons besoin, c'est d'un Josué. Vous voyez ce qui se passe? Moïse est le prophète lorsqu'Israël est capable d'être au haut de la montagne. Josué, c'est le disciple de Moïse qui est le prophète qui mènera Israël du bas de la montagne au haut de la montagne, mais de la montagne de la fin des temps. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur ce point. Et alors, je voudrais citer ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. J'ai d'autres références, mais je crois que le temps avance. Je vais vous donner la parole pour quelque temps. Ça me permettra d'attendre qu'on m'apporte un verre d'eau. J'ai rien dit. Mais quoi, le voilà. Ah non. Mais quoi qu'il en soit, il y a dans le Midrash Rabbah un Midrash que je voudrais vous citer. Et nous nous sommes renvoyés au premier geste politique de Moïse d'avoir tué l'Égyptien. Voilà de quoi il s'agit. Je paraphrase un peu le Midrash. C'est dans Vezot Abracha du Midrash Rabbah. Lorsque le temps pour Moïse était venu de quitter cette terre, alors l'âme de Moïse ne veut pas quitter le corps de Moïse. Et Moïse envoie Dieu envoie l'ange de la mort pour cueillir l'âme de Moïse. Et l'âme de Moïse ne veut pas quitter le corps de Moïse. Et elle commence à discuter avec l'ange de la mort en se justifiant. Et en se basant sur un principe important. Il n'y a de mort que s'il y a eu faute. Or, je n'étudierai pas ce thème, il est important pour lui-même. Or, ce n'est pas le péché originel, c'est un autre thème dans la tradition hébraïque. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai fait aucune faute. Dieu intervient, parce que l'ange de la mort se plaint que l'âme de Moïse ne laisse pas faire son travail. Alors Dieu intervient et se met à dialoguer avec l'âme de Moïse. Et l'âme de Moïse discute pas à pas en comparant ses mérites au mérite de chacun des patriarches. Chaque fois, dans l'histoire de chacun des patriarches, on voit qu'il y a une faille, mais dans l'histoire de Moïse, aucune faille. Et par conséquent, ici, il y a une impasse absolue. Et alors, c'est là que Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, à l'âme de Moïse, il lui dit, tu as fait une faute, tu as tué l'Égyptien. Alors là, je paraphrase. Hein. Alors Moïse dit, comment? J'ai tué un Égyptien, toi tu les as tués tous. il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, le salut d'Israël avait pour prix la fin de l'Égypte. Mais c'est Dieu qui parle. L'Égypte, c'est lui qui l'a créée. Et le fait qu'il faille payer le prix de l'Égypte pour le salut d'Israël fait que dans le tribunal d'en haut, il y a un dossier difficile. Il faut que Dieu opte pour une de ses créatures contre une autre de ses créatures. Dieu sait que l'avenir de l'histoire de l'humanité doit passer par Israël et pas par l'Égypte. Et c'est Moïse qui le lui a enseigné, si j'ose dire. Mais au niveau des événements, est-ce qu'il y a une différence entre la forme de civilisation de l'Égypte et la forme de civilisation des Hébreux en Égypte? Il y a un Midrash qui dit très clairement, l'ange de l'Égypte, l'ange tutélaire de l'Égypte intervient de cette manière en disant « Ceux-là sont idolâtres, ceux-là sont idolâtres, ceux-là sont prévaricateurs, ceux-là sont prévaricateurs, ceux-là sont ainsi, ceux-là sont ainsi. Pourquoi ?» Nous, j'attends. Rapidement. Pourquoi tu interviens pour cela, contre cela? C'est-à-dire qu'il y a un secret que Dieu est seul à connaître, la différence entre les Hébreux et les Égyptiens à la sortie d'Égypte. Mais formellement, à vue extérieure, est-ce qu'il y a une différence? J'essaie d'éclairer ça au niveau de notre expérience contemporaine. On pourrait dire au Moyen-Orient, eh bien, c'est avec ça. Ça me gêne. Ceux-là mangent des falafels, ceux-là mangent des falafels. Ceux-là, il y a du balagan, ceux-là, il y a du balagan. Ceux-là sont comme ça. Tous les observateurs de tous les journaux, de toutes les revues du monde entier ne voient pas de différence. Dieu seul connaît une différence. J'ai dit ça de manière un peu massive, mais je pense que c'est très clair.